Bonjour, donc aujourd'hui, nous allons voir tous les métiers qui sont liés à la radio. Et nous allons commencer par le métier d'animateur-animatrice, où Laura et Lina vont pouvoir nous poser des questions sur ce sujet-là. Donc en fait, l'animateur-animatrice est vraiment le pilier de la radio. Sur une station d'information, il anime les débats entre les invités, par exemple. Il va lancer aussi les reportages avec les journalistes. Mais pour une radio musicale, c'est surtout quelqu'un qui va divertir les auditeurs, qui va créer des liens quand il y a des espaces entre les différentes musiques qu'il aura programmées, qui va faire intervenir les auditeurs en direct, qui peut leur faire aussi reporter des cadeaux à travers des jeux qu'il peut s'inventer. L'animateur, il fait aussi les interviews quand les gens ils sont sur place, quand ils viennent dans le studio. Et il va délivrer des informations, par exemple, dans les stations musicales insolites pour tenir tout le monde en haleine et que les gens ils ne coupent pas leur radio. L'animateur crée donc le lien affectif entre l'auditeur et la radio. Est-ce que Laura et Lina ont des questions à ce sujet?
Oui.
Est-ce qu'on doit faire des études pour devenir animateur?
Alors, c'est une très bonne question. En fait, on peut faire des études pour devenir animateur, mais c'est aussi beaucoup de feeling. C'est-à-dire qu'il faut faire des études, par exemple, pour améliorer sa voix, le ton de sa voix, pour avoir des techniques vocales, pour bien parler, être extrêmement précis dans ses mots, etc. Mais il y a aussi toute une part de personnalité, en fait, à avoir au niveau de la spontanéité, la créativité, mais tout ça, ça se prépare. C'est-à-dire qu'il y a le charisme d'un côté, mais il y a aussi donc, la préparation. Il faut avoir une excellente culture générale et ça passe par les études aussi. Donc, on peut faire des études extrêmement variées pour avoir une culture générale importante. On peut faire soit de la sociologie, de l'histoire. On peut aussi être en école de journalisme après. On peut faire de l'économie, du droit. On peut faire aussi de la philosophie. Enfin, c'est tout ce métier d'animateur, il doit être rempli vraiment selon la radio dans laquelle il va travailler. Donc forcément, s'il est dans une radio d'information, il est beaucoup plus important qu'il ait fait une école de journalisme ou sciences politiques, enfin des écoles comme ça, enfin des études supérieures dans le genre. Mais si c'est un animateur qui va être dans une station de musique, il peut avoir fait par exemple des écoles de musique actuelles, etc. Il faut vraiment qu'il connaisse bien le milieu musical dans lequel il va être amené à travailler pour pouvoir rebondir à chaque fois qu'il y a donc une situation qui ne sera pas forcément préparée à l'avance. On ne prépare pas tout à l'avance parce qu'il y a une culture générale importante à avoir à chaque fois.
Quand on est animateur, on voyage?
Alors, les animateurs peuvent être amenés à voyager, notamment dans le cadre de leur radio, mais ça dépend vraiment. En général, un animateur, il va quand même rester beaucoup sur place pour recevoir tout le monde. C'est plus les reporters qui vont être amenés à voyager si jamais la radio s'intéresse à des sujets qui ne sont pas donc dans le lieu où de travail, dans la ville ou le village où ils travaillent. Donc, un animateur peut voyager pour, par exemple, dans une radio musicale, il y a par exemple l'Energy Music Award. Donc, l'animateur, il va voyager là-bas pour animer cette émission particulièrement spéciale qu'ils font lors d'un cadre précis, d'un événement de la sorte. Alors, nous allons aussi voir le métier de directeur de la programmation et Laurent nous posera une question tout à l'heure. Alors, le directeur de la programmation est vraiment le stratège d'une radio. Il va définir la grille des programmes d'une station de radio, c'est-à-dire les émissions et leur contenu. Par exemple, si c'est une station de sport, de musique, d'information. Il va aussi définir les horaires de diffusion. Par exemple, on va dire qu'il y a une émission qui va passer le matin parce que le public susceptible de l'écouter va être plus disponible le matin ou c'est pour une cible. Enfin, il va cibler vraiment, voir quelle est la cible de chaque émission. Ensuite, pour ce qui est des stations musicales, il va définir par exemple le genre diffusé à l'antenne. Si ça va être de la variété française, de l'électro, du commercial, etc. Et il va décider des journées spéciales, par exemple une journée IT, Michael Jackson, etc. Il va recruter aussi les animateurs en fonction de leurs talents et leur confie une tranche, matinale, soirée, journée, etc. Ça, c'est vraiment le travail de directeur de la programmation. Laurent, tu as une question par rapport à ça?
Oui. Comment est-ce qu'il peut faire pour recruter autant de monde pour faire la programmation et...
Alors, le recrutement, ça se passe un peu comme pour tous les métiers, c'est-à-dire qu'il va mettre en place des offres d'emploi et ensuite, les personnes susceptibles donc, d'être intéressées par rapport à une émission précise ou une animation précise vont donc postuler. Et lui, en fonction de leur CV, des motivations, des entretiens aussi, il va définir si cette personne convient ou pas pour le type d'émission. C'est-à-dire que quand on a une radio qui est plutôt d'information, on va privilégier donc des personnes sur une émission, par exemple sur la géopolitique, c'est-à-dire quand ils vont étudier un peu tous les pays et les situations donc de chaque pays, il va plutôt prendre quelqu'un qui va connaître donc ce type d'information, qui va avoir voyagé, qui a beaucoup de connaissances en sciences politiques, qui va parler plusieurs langues, etc. Par contre, s'il est plus sur une émission de reggae, il va être plus à même de choisir quelqu'un qui connaît tous les chanteurs de reggae, tous les groupes, qui a participé déjà à beaucoup de concerts, etc. Donc vraiment, le profil s'est choisi par rapport à l'émission. Alors, nous allons parler du métier aussi de technicien radio et Fatma va nous poser une question tout à l'heure. Donc, le technicien radio, en fait, c'est un réalisateur. Il va travailler à partir du conducteur d'une émission, le récapitulatif de ce qui va s'y passer. Et derrière sa console de mixage, il lance en direct les jingles, la musique, les reportages et la publicité. Il va ouvrir ou fermer les micros des animateurs ou des invités. Il passe à l'antenne les liaisons satellites ou téléphoniques avec les journalistes et les intervenants sur le terrain. Donc, technicien radio, c'est un petit peu ce qu'il a fait Christophe. Donc, dans le cadre de vos reportages, il vous a... Et ce qu'il va faire tout à l'heure quand on va faire l'émission dans les conditions du direct. Fatma, tu as une question par rapport à ça?
Est-ce que c'est mieux payé que les autres ou pas?
Alors, si le technicien radio est mieux payé que les autres, alors en fait, ça dépend. Ça dépend de chaque station. Toutes les fréquences, enfin, toutes les chaînes, les fréquences radio, ils ont une administration différente, enfin, un système de ressources humaines, des choses comme ça, donc qui sont différentes. Donc, un technicien radio peut être mieux payé, par exemple, à Europe 1 que... le journaliste d'une radio de village. Mais en même temps, ça dépend. C'est un métier qui est très intéressant parce qu'en fait, c'est le technicien radio qui est surtout là pour... qui va donner la cohérence à l'émission. Il va vraiment être là pour garantir que l'émission se passe bien parce qu'il ne faut pas juste parler, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui définisse à quel moment il faut arrêter de parler, à quel moment il faut lancer le jingle, qui va respecter des horaires extrêmement précis. Parce que vous savez qu'à la radio, il y a des tranches horaires, donc on ne peut pas dépasser même quelques secondes parce qu'on empiète sur l'émission suivante. Donc le technicien radio, il va être vraiment là le garant de que l'émission se passe bien, qu'on écoute bien tout ce qu'il y a eu comme enregistrement auparavant. Alors, nous allons parler du métier d'ingénieur du son. Donc, Mélanie et Susanna vont tout à l'heure nous poser des questions de ce sujet. Donc, sur un plateau de tournage, l'ingénieur du son est l'oreille du réalisateur. À la fois artiste, doté d'une bonne culture musicale et technicien de haut vol, il est responsable de l'identité sonore de l'émission radio. Qualité du son, tonalité des dialogues, choix des bruitages. En fonction de ses choix et de son analyse, il adapte son matériel de prise de son. La hantise de l'ingénieur du son, c'est les parasites et les interférences qui abîment un son. Enfin, il réalise un mixage, étape essentielle qui consiste à mélanger et doser les différentes sources sonores pour obtenir la bande-son définitive de l'émission. Aujourd'hui, c'est Clémence qui joue à l'ingénieur du son. Vous avez des questions par rapport à ça?
En fait, il fait à peu près quoi comme son en fait? Qu'est-ce qu'il fait comme spécial en fait, avec le son?
Alors, par exemple, nous allons le voir tout à l'heure dans l'émission, il va rajouter des petites... l'habillage sonore. C'est-à-dire que quand on va parler... dans une émission, on va parler, par exemple, du TGV. Bah, lui, il va choisir des sons de TGV, par exemple les trains qui passent, ou lorsqu'on est à la gare, qu'il y a les annonces en gare, etc. Il va choisir de les enregistrer, de les mettre, de garantir que ce soit une bonne écoute. Par exemple, s'il y a des bruits extérieurs qui vont par exemple être gênants pour l'auditeur, une personne qui rentre, une personne qui parle, une personne qui... un téléphone qui sonne, etc. Tout ça, il faut l'enlever. Et donc, l'ingénieur du son, il va être là pour garantir que tout ça soit audible. Par exemple, aujourd'hui, Clémence, elle doit garantir que ce qu'elle écoute dans ses écouteurs soit vraiment un son le plus pur possible, qu'il n'y ait pas des bruits qui soient gênants. OK. Est-ce que tu as une question aussi, Mélanie?
Oui. Et comment il modifie le son?
Alors, l'ingénieur du son a une table de mixage. Et donc, avec cette table de mixage, il peut faire des modifications sonores. Il peut vraiment jouer avec les sons, augmenter le volume, par exemple, quand une personne parle trop doucement, ou diminuer le volume quand une personne parle un peu trop fort. Et donc, il va vraiment avoir cette table de mixage qui va l'aider à vraiment modifier chacun des sons qu'il va entendre. Merci. Nous allons aussi parler aujourd'hui des journalistes et reporters. Vous avez pu vivre ça pratiquement en direct avec votre expérience dans les ateliers. Mais donc, un journaliste téléradio, il va être à la recherche d'informations. Il va la sélectionner, il va la vérifier. Ça, c'est vraiment très important de vérifier l'information qu'on a. Et il va la recouper et il va la mettre en forme. Alors, pourquoi je parle des recoupes? Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais en tout cas... Normalement, vous avez plusieurs sources d'informations. On peut passer quand on est à une seule source d'informations quand on fait un reportage, parce qu'on risque de pas du tout être dans le vrai, d'avoir une source d'information qui est pas peut-être tout à fait complète, et du coup, l'information qu'on va donner ne va pas être réellement une information le plus objective possible. Donc, il faut avoir plusieurs sources d'informations. C'est ça la garantie aussi que l'information elle est bonne s'il y a plusieurs sources. Et ensuite, il faut les recouper, c'est-à-dire que vous avez trois personnes qui vont vous donner une information. Donc, une personne qui va vous dire « Le CDI est ouvert tous les jours dès 10h à 18h. » Une autre personne qui va vous dire « Le CDI, il ouvre seulement 4 jours par semaine. » Et une autre personne qui va vous dire « Tous les lundis, le CDI est fermé. » Donc, comme ça, vous allez pouvoir recouper les informations, vous rendre compte que la première personne qui vous a parlé de tous les jours de 10h à 18h n'était peut-être pas dans le vrai, parce que vous avez deux autres personnes qui vous ont dit que c'est que 4 jours par semaine et une autre qui vous a dit que le lundi, c'était fermé. Donc, cela vous permet, par exemple, de déduire que le CDI, en fait, il est fermé les lundis et il est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 18h. Quand vous avez ça, si vous avez encore un doute, bien sûr, il faut s'adresser à d'autres sources d'informations pour être sûr que cette information est vraie. Parce que si vous allez passer à la radio avec une information du genre « Le CDI ouvre tous les jours de 10h à 18h », vous allez tromper vos auditeurs qui vont se pointer au CDI un lundi, un midi, et qui vont trouver la porte fermée. Donc ça, c'est vraiment la recoupe d'informations. Ensuite, il faut aussi veiller à ne pas déformer les propos ou les informations que vous transmettez quand vous êtes reporter. C'est-à-dire que il y a une personne qui va vous dire « Le CDI est ouvert tous les jours de 10h à 18h. » Et vous allez, dans votre reportage, dire « Oui, le CDI est ouvert tous les jours, toute la journée. » Donc ça, en fait, c'est une déformation d'information puisque on avait parlé de 10h, 18h et toute la journée, ça peut être interprété d'une façon différente par n'importe lequel des auditeurs. Ça peut être de 8h du matin à 19h, ça peut être de 9h à 17h, etc. Donc, il faut vraiment essayer d'être le plus précis possible dans le reportage. Alors, les radios et les chaînes d'information continue sont surtout des médias d'alerte. Donc, les contraintes qui pèsent sur un papier parlé, c'est-à-dire ce qu'on va faire à la radio ou un sujet télé, ne sont pas les mêmes que celles d'un papier écrit. Les journalistes télé ou radio doivent proposer à ses auditeurs une information rapide, souvent dans les contraintes du direct, c'est-à-dire que une agence de presse va vous informer, par exemple, que le nouveau président de la République, c'est telle personne. vous n'avez pas forcément le temps de vérifier toutes ces informations. Vous avez une agence de presse, donc on va dire un organisme qui garantit que l'information est des sources sûres, mais on n'est jamais 100% sûr non plus. Donc le journaliste, il va, avec ses capacités, sa culture générale, ses impressions, etc., aussi être amené à donner des informations très rapidement. Donc il faut qu'il soit particulièrement vigilant. Et il faut être très rapide et très réactif, c'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse vraiment avoir un sujet très vite assez bien construit. Quand on sait, par exemple, quand un dimanche à 20h, on a donc le nom d'un président de la République, à 20h01, il faut que l'information soit déjà partout. Ce qui fait que le journaliste, il faut qu'il construise ses phrases, qu'il ait connaissance, etc. Et qu'il puisse présenter ça correctement. Donc, il y a différentes formes de journalistes. Il y a des journalistes qui vont être plus donc, à la station, qui vont rester sur place, qui vont faire les interviews directement. Mais il y a aussi des journalistes qui vont être amenés à voyager, à partir, à aller chercher l'information là où elle se trouve. Et donc, ça, ces journalistes, c'est ce qu'on appelle les journalistes de terrain. Tout journaliste peut être amené, en fait, à être un journaliste de station ou de terrain, mais normalement, ils vont être selon donc, la grandeur de la station amenée à faire plusieurs choses. Est-ce que vous avez des questions, Théo, Quentin et Clément?
Faut-il avoir un équipement spécial pour être journaliste?
Alors, un journaliste radio, il va toujours devoir être accompagné, par exemple, d'un enregistreur portable quand il va sur le terrain, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est la prise de son. Un journaliste télé, il va plus être amené à partir avec une caméra, et un journaliste de la presse écrite, il va tout le temps avoir son petit carnet, même si tous doivent avoir leur petit carnet, parce qu'on peut prendre des sons tels que Clémence est en train de le faire avec moi, et en même temps, ensuite, il faudra qu'elle note qui je suis, où est-ce qu'elle m'a vu, comment s'est passé notre entretien, dans quel cadre cela s'est-il déroulé, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément transparaître au niveau de la radio, et ensuite, il faudra qu'elle pressente tout ce que je vais lui dire. Donc, l'équipement de base, c'est-à-dire que tout journaliste doit toujours avoir de quoi écrire, et ensuite, selon le milieu où il va travailler, il va avoir donc ce qui est adapté, donc radio-enregistreur, télé, caméra et presse écrite, son carnet.
Est-ce que c'est long pour être un vrai journaliste?
Alors, si c'est long pour être un vrai journaliste, c'est surtout la question donc des études, j'imagine que tu veux dire. Alors, un vrai journaliste, il est journaliste soit suite à une école de journalisme. Donc, il peut avoir un diplôme de journaliste. Et ensuite, il y a aussi d'autres possibilités, c'est-à-dire qu'il peut faire d'autres filières, comme sciences politiques, par exemple, comme sociologie, etc., et être embauché dans un journal. Un journaliste peut commencer, par exemple, comme pigiste. Un pigiste, c'est quelqu'un qui est payé, en fait, au sujet ou au nombre de caractères ou au nombre des reportages. Donc, c'est un peu la première phase du journalisme. On est considéré journaliste quand on a une carte de presse. Une carte de presse est obtenue quand plus de 50% des revenus de la personne sont liés à un travail de journalisme. Et donc, quand on a une carte de presse, on se considère un journaliste. Après, on peut être aussi journaliste amateur ou journaliste bénévole dans le cadre d'un journal de quartier, d'un journal de village, etc. Donc, on peut aussi avoir le statut de journaliste bénévole quand on est dans un journal comme ça, mais on est un vrai journaliste à partir du moment où on considère qu'on donne des informations qu'on a vérifiées, dont on a vérifié les sources, qu'on a recoupées et qui vont apporter un plus aux personnes qui sont en train de t'écouter ou de voir.
Est-ce que ça arrive qu'un journaliste n'a pas d'informations?
Alors, c'est une très bonne question. En fait, un journaliste peut ne pas avoir l'information qu'il souhaite, c'est-à-dire s'intéresser à un sujet et ne pas du tout avoir la possibilité matérielle ou physique de se renseigner sur ces sujets-là, soit parce que les informations sont cachées, sont perdues, sont inaccessibles, soit parce qu'il ne peut pas se rendre dans le lieu où l'information a lieu. Par exemple, il y a certains pays où il y a par exemple une guerre ou un conflit et les journalistes ne peuvent pas accéder au lieu du conflit qu'ils souhaiteraient couvrir parce que ce n'est pas possible matériellement. Il n'y a pas d'avion peut-être ou ils n'ont pas accès à cause de leur nationalité, etc. Donc un journaliste peut effectivement avoir un problème par rapport à l'information qu'il veut donner. Après, les journalistes choisissent aussi leur sujet, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'un journaliste ne puisse avoir rien à dire sur ce qui se passe, parce qu'il y a des choses qui vont se passer de toute façon tous les jours partout, mais peut-être que le journaliste va considérer que certaines choses ne sont pas assez intéressantes et que donc rien ne se passe. Ça dépend en fait du point de vue où on se place. Donc nous avons fini, je voulais juste vous faire un petit point sur le comité éditorial, c'est-à-dire que tous ces métiers-là, tous les gens vont, enfin tous les participants, toutes les personnes qui font ces métiers-là, à un moment donné doivent se regrouper et doivent faire donc ce qu'on appelle un comité éditorial. Une émission où, enfin toutes les tranches horaires, enfin par jour, il faut se réunir pour savoir qu'est-ce que chacun va dire. Si Fatma elle est en train de faire un reportage sur le CDI, si Suzanne fait un reportage sur un autre sujet, par exemple la cantine, etc. Il faut que tout le monde soit au courant pour qu'on puisse faire et que le directeur de programmation il soit d'accord. Il décide du temps qui va être alloué à ça, etc. OK ? Donc ça, c'était un peu les métiers de la radio et on va pouvoir les partager avec vos camarades. Merci.